Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'AJT du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
Amis auditeuristes, bienvenue dans l'AJT du local. Aujourd'hui, mon invitée est Laurette Auduit, présidente de Femmes Solidaires 53. Et je suis contente qu'elle ait accepté mon invitation, puisque dans cette période électorale, le droit des femmes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles n'est pas un sujet à mettre de côté. Il est essentiel et justement, on en parle aujourd'hui, dans quelques instants. Avant ça, j'ai bien envie de te saluer, Léane. Bonjour et j'espère que tu vas bien.
Bonjour Margot.
On te retrouve en milieu d'émission, à peu près, pour l'actu en bref et la météo. Ensuite, si vous étiez à notre écoute hier, vous avez découvert la première partie de ce reportage réalisé au Centre culturel Le Grand Nord à Mayenne, en compagnie des jeunes de l'IME de Montaudin et de Sébastien Rousselet, chanteur du groupe Rookin. Ensemble, ils montent un très beau projet qui sera présenté lors du festival Un singe en été ce week-end. On continue aujourd'hui notre immersion dans les répétitions, ça sera en seconde partie d'émission. Et on terminera ensemble avec la toute dernière chronique, un autre écho de cette saison avec Swazik Manak-Chauvel qui va nous rejoindre en cours d'émission dans ce studio. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui et j'ai tout de suite envie de me tourner vers notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Laurette Auduit, vous êtes la présidente de l'association Femmes Solidaires 53. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Alors aujourd'hui, dans ce contexte d'élections législatives anticipées, on a souhaité vous recevoir pour échanger sur le contexte actuel des droits des femmes en France, en Europe, mais aussi à l'international. On peut parler d'un contexte de crise actuellement dans notre pays, mais même ailleurs, et voir un petit peu quels sont les enjeux. Alors j'ai déjà envie de vous demander peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre association, les missions, où est-ce que vous intervenez, comment vous agissez?
Donc c'est une association féministe, laïque, qui en fait est née des mouvements de la résistance féminin. Donc c'est une association qui date de 1945, même si à l'époque elle ne s'appelait pas comme ça, c'était l'Union des femmes françaises. Donc ça a changé de nom au fil des années. Et donc notre objectif principal, c'est la défense des droits des femmes. Et voilà, des enfants éventuellement aussi, bien sûr, puisque c'est lié. Et puis aussi de faire de l'information, de la prévention, en particulier auprès des jeunes. Donc c'est un mouvement aussi qui est agréé par l'éducation nationale, ce qui nous permet d'intervenir dans pas mal d'établissements scolaires et dans tous les lieux où il y a du public jeune. En ce qui concerne la Mayenne, donc nous avons un local à Laval, et nous faisons une permanence hebdomadaire, mais nous recevons également sur rendez-vous, puisqu'on a aussi un numéro de téléphone auquel on peut nous joindre. Autrement, pas mal d'actions, notamment une séance par mois de self-défense à destination des femmes qui ont besoin de reprendre un petit peu confiance en elles. Un certain nombre aussi, quand on peut, de ciné-débats qui permettent de toucher un public plus vaste et d'aborder des thématiques qui nous sont chères. Donc ça peut être le droit à l'IVG, ça peut être l'inceste avec le film par exemple Une famille, etc. Donc voilà, les violences aussi, les violences conjugales ou intrafamiliales qui sont faites aux femmes. Et aussi donc dans notre local et également une fois par mois au commissariat de police où nous avons une permanence, on peut recevoir des femmes victimes, recueillir leurs paroles et voir un petit peu en fonction de l'évolution, disons, de leur démarche, si elles sont prêtes à porter plainte, si elles le souhaitent, si elles ne sont pas encore prêtes, etc. Et essayer de les orienter éventuellement aussi vers d'autres associations plus professionnelles avec lesquelles on travaille en partenariat. C'est l'avantage d'un petit département comme la Mayenne, on travaille beaucoup en partenariat avec par exemple la Citadelle, le CIDFF, Victimes et Prévention Pénale et puis un certain nombre d'autres partenaires.
J'ai envie de commencer avec une citation bien connue de Simone de Beauvoir qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ».
Oui, alors c'est justement ça, quand vous parliez d'enjeux de ces prochaines élections, ce qu'on en attendait, en fait, c'est surtout ce qu'on en craint. Parce qu'avec la montée de l'extrême droite, effectivement, les droits des femmes, on sait très bien que dans les pays où l'extrême droite arrive au gouvernement, les premières mesures sont contre les droits des femmes, même si le discours du Rassemblement national est assez ripolliné et donc passe pour bienveillant. En fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que sur des points cruciaux en fait, des droits des femmes, les députés d'extrême droite, soit au Parlement européen, soit au Parlement français, ont soit voté contre, soit se sont abstenus, soit ils étaient carrément absents, ce qui montre l'intérêt qu'ils portent à ce genre de questions. Et en particulier, il y a trois grands thèmes finalement sur lesquels on a des inquiétudes. C'est le droit à l'avortement. Heureusement qu'il y a eu la constitutionnalisation, ça fait quelques mois, parce que ça rend quand même beaucoup plus difficile de revenir là-dessus.
Mais il y a quelque chose par rapport à ça, je me permets de vous couper, Laurette. En Italie, par exemple, on constate que finalement, cet accès à l'avortement est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que parce que les médecins ont cette possibilité de réserve, de refuser finalement de procéder à cet acte-là. Il y a une grande partie de la population qui a un accès mais presque impossible finalement à l'avortement, et ça c'est important de le rappeler, que ce qui est inscrit aujourd'hui dans notre constitution n'exclut pas ce type de situation.
Alors c'est vrai qu'en France aussi il y a une clause de conscience quand même des médecins, même la double clause de conscience, parce qu'il y a une clause de conscience qui est commune à tout le monde, on a tous le droit de refuser de commettre un acte qu'on réprouve, mais pour les gynécologues entre autres, c'est la double clause, c'est parce que surtout quand c'est une interruption volontaire de grossesse, donc ils ont un double droit de s'opposer à ça. Enfin, d'une manière générale, quand même, on arrive, selon les territoires, quand même, c'est pas égal partout en France, à avoir un avortement quand on l'a décidé. Mais c'est vrai qu'en Italie, par exemple, on s'aperçoit, et c'est tout récent, qu'on vient d'autoriser la présence dans les cliniques qui pratiquent l'avortement des groupuscules pro-vie, entre guillemets, pour informer les femmes. Et en fait, on sait très bien que ce n'est pas de l'information. En fait, c'est de la propagande, c'est la volonté de leur faire changer d'avis, etc. Mais d'après la Première ministre, non, c'est simplement le droit à l'information. Ce qui est important pour nous, c'est le droit au choix. Et pour avoir ce droit au choix, il faut avoir cette possibilité, en fait. Après, voilà, il y a d'autres pays européens où, effectivement, la Pologne, par exemple, où l'avortement est interdit maintenant, carrément. Et puis, il y a aussi la Hongrie.
Faut écouter le cœur des...
Oui, voilà.
Mais... Avant que la femme puisse prendre la décision d'une interruption volontaire de grossesse,
C'est ce qui se pratiquait en France avant la loi Veil, des mesures comme ça pour décourager. Et puis, en fait, on sait quand même que la décision de l'avortement, c'est jamais une décision facile à prendre. Et qu'en fait, en ayant recours à des procédés aussi mesquins, finalement, ça peut effectivement ébranler encore plus la femme qui n'a pas besoin de ça à ce moment-là, en fait.
Exactement. Avant le début de cet entretien, on a pu échanger un peu toutes les trois ensemble. Et donc, vous nous avez parlé également d'une avancée du vote des femmes parmi les électeurs du Rassemblement national. Ça, c'est une information importante, puisque depuis le début de cet entretien, finalement, on rappelle que les extrêmes droites ne sont pas au service des femmes, au service du droit des femmes, ne sont pas bienveillants envers les femmes. Et malgré tout, une augmentation de l'électorat féminin.
Oui, parmi les électeurs ou électrices du Rassemblement national, il y a 30% de femmes, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport au dernier vote de 2019. Et donc, justement, j'écoutais avec intérêt l'intervention de Anne-Cécile Meyfer, qui est la représentante de la Fondation des femmes, et qui disait, mais qu'est-ce qui peut pousser des femmes à voter pour un parti qui leur est complètement contraire, en fait, qui ne va prendre aucune mesure en leur faveur. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de... ce qu'elle appelle un miroir rassurant, c'est-à-dire qui se présente comme étant protecteur. C'est quand même c'est un mouvement un peu viriliste, on va dire, parce que c'est protecteur. Et du coup, comme on a entretenu dans l'esprit des gens l'idée qu'on n'est plus en sécurité, qu'on peut très bien être agressé n'importe où, et surtout quand on est une femme, ce qui n'est pas forcément faux, mais quand même pas à ce point-là, on va dire. Du coup, ces gens-là, en fait, représentent une espèce de protection, de sécurité. Et ça rejoint un peu, je ne veux pas faire un amalgame un petit peu facile, mais j'ai entendu quand même dans les stages qu'on anime aussi pour les auteurs de violences conjugales, quelqu'un qui avait, enfin, qui surveillait les déplacements de sa femme avec un logiciel de géolocalisation. Et quand je lui ai dit, mais vous savez que c'est une atteinte à la vie privée, il m'a répondu, mais je suis très protecteur. Et en fait, on se pose toujours la question entre protection et contrôle. Et c'est là, c'est toute la question, en fait. Donc, c'est un petit peu ça aussi, ce côté, bah oui, on va voter extrême droite parce que ce sera la sécurité. Comme en plus, on a assimilé, ils ont assimilé danger et immigrés. Donc, on passe vers tout ce qui concerne les lois contre l'immigration. Donc, voilà, c'est flou parce que c'est faussé, en fait. Donc, c'est un petit peu ça.
On l'a un peu dit ensemble, on connaît l'importance de l'éducation et de l'information pour l'égalité hommes-femmes et pour la lutte contre les violences faites aux femmes. L'association Femmes Solidaires, elle est justement très active sur le terrain pour cette éducation ou cette sensibilisation. Qu'est-ce qu'on peut projeter du soutien qui sera apporté à votre association pour ces missions-là en fonction des résultats des élections ? Par exemple, Emmanuel Macron avait prétendu, dès son premier mandat, faire de la lutte contre les violences faites aux femmes sa priorité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On sait que le sexisme, tous les clichés qui sont véhiculés, c'est le terreau des violences, en fait. C'est parce qu'on a éduqué certains garçons, par exemple, à se sentir supérieurs ou à n'avoir aucune frustration dans leur famille, que finalement, après, ils n'en acceptent aucune non plus de la part de leur conjointe. Donc, c'est tout un engrenage, effectivement. Alors oui, c'est vrai que, comme je le disais, on est agréé par l'éducation nationale et on intervient beaucoup. D'ailleurs, on est beaucoup sollicité par les établissements, que ce soit les collèges, les lycées, les centres d'apprentissage, les foyers habitat jeunes, etc. Et donc, selon l'âge, on parle d'égalité filles-garçons, de respect, de la notion de consentement. Et la notion de consentement, elle peut démarrer très très jeune, en fait. Donc, non, par exemple, je ne sais pas, mon corps, ma personne, c'est un peu une bulle. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ma bulle, tu n'as pas le droit de me toucher, etc. Donc, il y a des choses qui sont importantes à faire comprendre dès le plus jeune âge. Et nous, on est persuadés que c'est par l'éducation qu'on arrivera à changer les mentalités et à faire une société plus respectueuse, plus égalitaire. Et en fait, on est dans un féminisme alors à la fois universaliste, c'est-à-dire qu'on pense que les droits des femmes doivent être universels et que ce qu'on nous oppose quelquefois, c'est l'exception culturelle. Alors l'exception culturelle, oui, pour certaines choses, mais pas quand il s'agit de droits fondamentaux, d'atteinte à la personne, comme par exemple les mutilations sexuelles. Ça, on va pas passer dessus en se disant, ben non, mais c'est leur culture. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que ça détruit non seulement physiologiquement, mais ça détruit aussi psychologiquement l'intégrité de la femme, en fait. Donc il y a des choses comme ça qui nous sont chères. Et c'est vrai que pour en revenir justement à ce qu'on disait à propos de l'extrême droite, une des premières choses qu'il commence à envisager, c'est de priver des associations comme le planning familial, et pourquoi pas la nôtre, de subventions, puisque certains considèrent que toutes ces actions d'animation, d'information sur la vie sexuelle et affective sont contraires à la morale et sont plutôt de la propagande politique et une forme d'incitation à la débauche, entre guillemets. Donc c'est grave pour l'avenir, effectivement, de toutes ces interventions qui me paraissent précieuses.
Dans ce contexte-là, donc vous étiez présent lors de la manifestation
samedi dernier.
Présente lors de, voilà, samedi. Votre position, vous, dans ce contexte électoral, c'est finalement d'appeler les gens à...
Alors, appeler les gens à voter, déjà, parce que les abstentionnistes, pardon, sont quand même nombreux. Et alors, c'est vrai que vu l'encombrement du hall du commissariat de police vendredi dernier pour des procurations, on peut se dire qu'il y aura moins d'abstentionnistes, en espérant qu'ils ne se précipitent pas pour voter extrême droite, mais bon. Mais sinon, oui, ce serait déjà ça. Et ensuite, éviter le vote pour l'extrême droite. Après, chacun est libre de voter pour qui il veut. Et voilà, mais l'extrême droite me paraît dangereuse, en particulier pour les femmes, les filles, les enfants qui vont nous succéder, en fait. C'est avec tout ce que ça peut comporter. Quand on sait, par exemple, que le Rassemblement national a voté, je crois, contre. Déjà, c'est abstenu sur la convention d'Istanbul. C'était la convention qui, euh, qui déterminait la lutte contre les violences faites aux femmes, donc une abstention en 2023. Mais ils se sont également, au Parlement européen, le Rassemblement national a été le seul parti qui a voté contre déjà un salaire minimum européen, parce que c'est important, en particulier, il y a beaucoup de femmes qui ont des emplois précaires et sous-payés. Et puis, ils se sont abstenus sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, quand même. Alors que, bon, normalement, c'est un peu la base, quoi. Mmh. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que les gens sachent, parce que c'est pas... ils ne le disent pas, en fait. Mmh. Donc, voilà.
Oui, regardez les votes, je trouve que c'est déterminant en se disant qu'est-ce qui est fait concrètement entre les discours et des fois ce qu'on peut constater dans les votes, c'est très important. Là, on parle effectivement des craintes. Est-ce que vous auriez des espoirs? Quelles seraient pour vous les priorités dans le positif? Quelles avancées vous espérez peut-être prochainement?
Alors, les avancées, ça serait déjà de continuer à faire de l'éducation, parce qu'il y en a bien besoin, même si on reçoit quand même un accueil assez, assez ouvert et plutôt encourageant de la part des jeunes, en fait. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien aussi, alors que soit davantage prise en compte la parole des femmes, en particulier des femmes victimes, parce qu'en fait... Ça fait plusieurs fois que certaines me disent « Ah non, on ne va pas porter plainte parce que ça va être classé sans suite. Du coup, il va revenir à la maison et ça va être encore pire. » Donc en fait, c'est un petit peu contre-productif cette histoire-là. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand l'homme est... Même s'il est placé en garde à vue, mais si on le laisse sortir aussitôt après, ça risque d'être encore pire. Donc il y ait cette espèce de zones vides où la femme puisse être mieux protégée, je pense. Et puis aussi, alors ça, je ne vais pas me mêler d'affaires que je ne maîtrise pas trop dans le domaine de la justice, mais je trouve quand même que les peines contre les conjoints ou ex-conjoints violents sont me paraissent souvent trop légères, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on voit pas mal, même dans les cas de féminicide, on en est quand même, je crois, maintenant, on ne doit pas être loin de 63, 65 féminicides pour l'année 2024. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 62, mais ça fait déjà 2-3 semaines. Ça augmente assez vite. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent des femmes quand même qui ont déjà porté plainte plusieurs fois. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été entendues ou écoutées, mais ça veut dire quand même qu'il y a forcément une zone blanche après où quelque chose n'est pas mis en place pour les protéger, en fait. Donc, ce serait plutôt dans ce domaine-là que je trouve qu'il faudrait accentuer davantage, encourager toutes les instances, associations ou autres qui prennent en charge les femmes qui sont dans le besoin, dans l'urgence, etc. Pas assez non plus, à mon avis, de places de logement d'urgence. Et quelquefois, un petit peu... Elles sont correctes, on va dire, mais enfin quand on est victime de violence et qu'on est obligé de fuir son foyer, je pense qu'on a besoin aussi d'un minimum de, peut-être pas de confort, mais au moins d'être à l'aise quand même,
évidemment.
Et c'est quelquefois un petit peu discutable, on va dire.
Ceci, ça entre dans la question de la politique budgétaire aussi. Combien est-ce qu'on alloue comme budget finalement à toutes ces causes-là pour les faire avancer?
Et puis aussi
des questions d'argent.
Il y a une question d'argent. Forcément, il y a une question d'argent, mais pas que. Il y a aussi la formation des personnels qui peuvent être amenés à être en contact avec ces femmes. Il y a la formation, alors c'est vrai que ça a fait énormément de progrès au niveau des forces de l'ordre, mais il y a quand même encore, il y a toujours des progrès à faire. Donc c'est ça aussi, il y a de l'argent, mais il y a aussi les moyens humains, en fait.
En tout cas, merci Laurette d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous...
Oui, moi j'ai trouvé ça très agréable de discuter avec vous, en fait.
Merci beaucoup. Léane, c'est bientôt à toi pour l'actu en bref et la météo. Mais allez, d'abord, on écoute un son que tu as choisi, Goodbye de Bess McCarthy. Falling in love has always been something I'm good at. I wear my heart on my sleeve and it's been on quite a few bedroom floors. They'll say I'm greedy, a little too needy, but is it a crime that I like everybody? I like the boys and the girls hate girls who date boys, the boys like girls who like girls, as long as they get to watch. And if I fall for a girl, the boys will call it a phase. If I fall for a boy, the girls are calling me fae.
to get this damn good at living my life. I had a high school crush, never realized what it was, so we stayed best friends, but the sleepovers were fun. Boys like girls who like girls, as long as they get to watch. But I'll keep falling for girls, 'cause it was never a phase. I'll keep falling for boys, it's a shame that you just don't get it.
I get it, you're ugly.
Double the options, double the problems.
Et maintenant, l'actu en bref. En ce début de semaine, la ville de Laval a annoncé un projet de parking dans le centre-ville. Depuis le début des travaux sur la place du 11 novembre, 200 places avaient été supprimées, faisant perdre une clientèle plus éloignée du centre aux commerçants. Ce projet sera mis en œuvre dans les anciens locaux de la Chambre des métiers, qui déménagera bientôt. Ce soir aura lieu le 23e et dernier mercredi pour la paix du Théâtre du Tiroir à Laval. Au programme, ciné-débat à 20h sur le film Yala Gaza de Roland Nurier. Le réalisateur sera présent à la fin du visionnage pour débattre avec la publique sur la question de la guerre israélo-palestinienne. Cet après-midi, les chaleurs risquent d'être encore une fois étouffantes avec des températures allant de 27 à 30 degrés. Alors je te préviens Samuel, ce n'est pas une raison pour rester enfermé dans ton 5 mètres carrés sans exagération. Vaut-il à fond en faisant croire à tout le monde que t'écris ton mémoire alors que tu vas gratter ta guitare toute la journée. On sait très bien que dans tous les cas, tu vas crever de chaud et ne rien faire, alors sors, mets-toi à l'ombre d'un parc et partage ta musique. Demain matin, le ciel se fera moins dégagé, avec un ciel plutôt voilé et nuageux et quelques éclaircies par-ci par-là. Et l'après-midi, pareil, le ciel sera plutôt voilé avec des températures qui diminuent, mais toujours aux alentours de 20 à 25 degrés. Mais je vous vois venir, Thierry et Nathalie, avec votre piscine gonflable. Je sais que c'est tentant, mais on n'est pas à l'abri d'une petite chute de température ces prochains jours. Alors attendez un peu avant de prendre un bain ou emmenez la petite famille dans le ruisseau du coin, c'est moins cher et c'est plus écologique.
Des chansons écrites et composées spécialement pour le festival Un singe en été. Et oui, hier déjà je vous emmenais au cœur de cette création avec les jeunes de l'IME de Montaudin et Sébastien Rousselet, chanteur du groupe Rookin. Ils se sont retrouvés pendant plusieurs séances au centre culturel Le Grand Nord à Mayenne et ensemble ils ont écrit 4 chansons que vous pourrez découvrir au festival Un singe en été ce week-end. C'est une vraie belle rencontre à laquelle j'ai pu assister. Je suis donc très heureuse de vous partager un peu de ces moments. Écoutez.
On redit tout dans un poème. Ce qu'on aime, c'est tout. Salut, c'est nous. On est sympa. Au pas comme vous. On redit tout dans un poème. Ce qu'on aime, c'est tout.
Et là, c'est à Emma.
Damien, vous êtes animateur et vous, Mathilde, infirmière à l'IME de Montaudin, tous les deux. Vous m'avez dit que c'est un projet que vous préparez depuis janvier. Avant ça, les jeunes ont déjà connu la scène avec le théâtre et puis le hip-hop. Alors, il y a ces ateliers avec Sébastien, mais vous continuez, vous aussi, à travailler avec eux, ce qui a été fait pendant ces séances-là. Moi, ce que je vois, ce que je découvre, c'est que tout le monde est vraiment investi dans ce qui est en train d'être créé.
Il y a un partage entre eux. Il y a, je pense, une envie de faire voir ce qu'ils sont, de faire voir que la différence est pour tout le monde.
Pour les non-lecteurs, il y a eu des enregistrements de faits. Ils peuvent écouter chez eux. Il y a aussi un travail de faits sur l'UE où ils peuvent en groupe s'entraîner. Et je trouve que c'est important de dire aussi que ça a permis à certains jeunes l'écriture d'exprimer des choses qui ne sont pas forcément faciles d'exprimer à travers un entretien individuel. Par les textes, ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent et c'est vraiment un chouette moyen d'expression. Et ça permet à d'autres aussi, je pense, de prendre confiance en eux, de montrer qu'ils font des chouettes choses et que c'est des vrais artistes.
On se trouve là maintenant dans l'auditorium du Grand Nord. Et donc là, on se met vraiment dans les conditions finalement un peu plus de représentation.
Ça commence à être un petit peu plus concret.
Mais ils n'ont pas l'air stressés du tout.
Pas trop du tout. Ce qui est bien, c'est que l'envie dépasse la peur. Et ça, c'est chouette.
Le corps est plein. Je mets dans un bureau. Je vais trop bosser pour gagner des sous. Travailler tout seul avec des gens. Vivre à Valéno au bord de mer. Je me fous, je suis dehors.
Salut, c'est nous. Moi, je m'appelle Cara Libert, j'ai 17 ans et j'aime bien chanter.
Bonjour, moi, je m'appelle Divina Richer, j'ai 16 ans.
Je m'appelle Emma Gué, j'ai 17 ans.
Emma, on te découvre musicienne sur scène. Sur un morceau, tu fais de la batterie.
Oui, j'adore la batterie. J'en ai fait quand j'avais 3 ans, mais j'ai arrêté après. Mais j'adore la batterie.
Vous ressentez quoi en travaillant sur ce projet-là?
Ça nous fait du bien, parce que c'est la première fois qu'on fait sur scène et que les gens peuvent nous écouter, même si soit on est handicapé, ils veulent quand même nous écouter. Du coup, c'est cool.
On n'est pas handicapé, Emma. On est différents, c'est tout.
Dans tout ce groupe de travail, finalement, vous pouvez raconter plein de choses et tout le monde s'écoute.
Oui, c'est bien.
C'est comme une famille, une deuxième famille.
Je le souhaite aux autres aussi.
Tu souhaites à d'autres jeunes de pouvoir vivre cette aventure-là?
Oui, même ceux qui n'ont pas le courage de le faire, n'hésitez pas à le faire et tout. Ça va pas vous empêcher à la vie plus tard. Faut pas vous bloquer pour ça, il faut le faire.
Ça vous a demandé du courage à vous de vous lancer dans ce projet-là?
Oui, pour faire confiance en moi, sur moi. Les gens qui m'en fous, les gens qui se moquent de moi et voilà.
J'en ai pas besoin du courage parce que j'en ai fait il y a longtemps. J'ai déjà fait de la musique, j'ai presque tout fait en vrai, en musique.
Sébastien, t'as plutôt commencé par travailler les textes ou la musique avec les jeunes ?
On est parti à écrire, mais d'abord sur la musique. Moi, c'est comme ça que je fais pour ma pratique perso. Et parfois, on est plutôt parti du texte et moi, j'ai trouvé une musique qui pouvait coller dessus. Il y a aussi le gros travail avec David, qui lui est au département plutôt musique actuelle et composition. Puis parfois, je suis parti d'eux. Il y en a une qui dit « Ah, j'ai envie de jouer de la batterie ». Elle est partie à jouer de la batterie. Puis on était en train de parler un peu de revendication et tout ça. « Mais tiens, ça peut être marrant. La batterie, il y a le côté un peu « Oye, oye, tu sais, l'édit qu'on faisait dans les villages au Moyen-Âge ou à la Révolution ». Et du coup, ça allait bien avec des revendications politiques, tu vois, l'espèce de crieur sur la place publique qui dit un peu la parole du peuple. Je croyais que ça pouvait vachement bien coller. Et Emma, elle joue plutôt bien de la batterie, elle a ce côté un peu « je joue de la caisse claire » et on annonce un peu les revendications de chacun. Donc c'est, du coup, il y a une espèce d'heureux hasard entre ces deux envies.
Bonjour tout le monde. Yes. Nous sommes élèves de l'EML Léonard de Vinci.
Ouais.
Notre projet, c'est d'aider la planète.
Bien fort.
Il y a des choses faciles à faire pour sauver la Terre.
Yes.
Des trucs simples, comme tout. Alors
Bonne année pour
nous. Et là, t'es pas envoyé les ouais.
La Terre sera jolie.
Bonne année pour nous.
Et là, tu rejoues.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Dans quelques instants, notre chroniqueuse Soizic nous rejoint pour sa dernière chronique, Un autre écho de l'écho. En attendant, on écoute Rouquine. C'est déjà le deuxième jour que je vous en parle, pourquoi pas en écouter un morceau. Et j'en ai choisi un que je ne vous ai pas encore passé dans cette émission. On écoute tout de suite dans les orties.
D'abord on est puceau, on se fait fantasmer. Puis un jour c'est l'obsolescence se programmer. Comment faire pour s'aimer quand désir est parti? Qui a poussé mémé tout au fond des orties?
T'as sorti le chat, oui ma chérie. On s'endort comme ça devant une série. Je sais plus comment faire battre ton pouls. Suis-je ton amant si je suis ton époux?
Nous deux on est bien, 10 ans au chrono c'est pas rien. Ensemble on est liés comme des animaux familiers. Quand on fait l'amour à l'amiable, certains je t'aime sont jetables. Mourons d'une petite mort, mais on s'endort. Moi je veux pas être ton proprio, simplement te faire bosser ton cardio. D'abord on est puceau, on se fait fantasmer. Puis un jour c'est l'obsolescence se programmer. Comment faire pour s'aimer quand désir est parti? Qui a poussé m'aimer tout au fond des orties? D'abord on est puceau, on se fait fantasmer. Puis un jour c'est l'obsolescence se programmer. Comment faire pour s'aimer quand désir est parti? Qui a poussé m'aimer tout au fond des orties?
T'as sorti le chat, oui ma chérie. On s'endort comme ça devant une série. Je sais plus comment faire battre ton pouls. Suis-je ton amant si je suis ton époux?
Moi j'ai pas connu 30 mètres carrés qu'on partage. Rien ne continue, je fais que démarrer. Je suis en stage mais je voudrais faire l'amour à l'amiable. Ce truc banal et incroyable. Être ton homme et ton coloc. Te voir en cloque sur nos bougies croquer la lumière. Et se faire des plans sur la comète. D'abord on est puceau, on se fait fantasmer. Puis un jour c'est l'obsolescence se programmer. Comment faire pour s'aimer quand désir est parti? Qui a poussé m'aimer tout au fond des orties? D'abord on est puceau, on se fait fantasmer. Puis un jour c'est l'obsolescence se programmer. Comment faire pour s'aimer quand désir est parti? Qui a poussé m'aimer tout au fond des orties?
T'as sorti le chat, ma chérie. On s'endort comme ça devant une série. J'ai plus comment faire battre ton pouls.
Alors bonjour Soizic, que ce soit dans les résultats électoraux des européennes ou dans les intentions de vote pour les législatives à venir, une question se pose, comment expliquer le désintérêt des électeurs pour la question environnementale? Alors pour nous éclairer Soizic, vous faites un point sur les travaux de Mélusine Bundfaller, doctorante en sciences cognitives à l'École normale supérieure. Et vous nous dites que pour rendre un sujet accessible et mémorable, il faut nécessairement le ramener à une échelle humaine.
Et oui Margot, parce que en effet, notre cerveau est bien meilleur pour se représenter des petites quantités et faire des calculs simples. Par exemple, dire que l'empreinte carbone moyenne en France est de 10 tonnes équivalent CO2 et qu'il faut la réduire à 2 tonnes pour que le réchauffement climatique ne dépasse pas 2 degrés, eh ben c'est bien plus parlant que d'évoquer les 384,5 millions de tonnes d'émissions nationales. Et puis, notre cerveau a besoin d'images pour rendre le problème concret. Alors, pour responsabiliser les consommateurs, comme les entreprises, eh bien, par exemple, il faut des labels de type Nutri-Score et qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants. Parce qu'en effet, par exemple, Margot, quand vous dévorez un steak, eh bien, vous ne voyez pas un nuage de CO2 s'en échapper. Et pour notre cerveau, le lien est donc difficile à faire. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Nous avons donc un besoin d'images intelligibles par le cerveau, comme par exemple parler du CO2 comme d'une couverture épaisse qui enveloppe la Terre et nous réchauffe au-delà du supportable, comme une grosse couverture en plein été, ou encore comparer l'élévation de 1 degré de la température terrestre à un corps humain à 38 degrés au lieu de 37. Et nous avons aussi besoin de vraies images montrant les conséquences du dérèglement climatique, comme par exemple en ce moment, celle de l'Inde ou de Riyad, où des milliers de personnes meurent littéralement de chaud.
Donc vous nous dites qu'il faut comprendre et intégrer le changement climatique, mais comment se sentir poussé à agir alors ?
Eh bien parce que, effectivement, l'information ne suffit pas pour changer nos habitudes. Tout le monde sait que c'est pas bon de fumer et il y a encore des fumeurs. Alors, nous sommes motivés à agir si trois conditions sont réunies, nous dit Mélusine. D'abord, si un risque est imminent et qu'il nous affecte personnellement. Or, la crise climatique est souvent présentée comme un problème dans le futur, dans des régions lointaines et sans conséquences directes du type la disparition des ours polaires en 2100. Eh bien non, il faut parler des pénuries d'eau courante, de la hausse des prix de l'alimentation ou des morts liées aux vagues de chaleur. C'est ça qui marque les esprits, c'est éco-anxieux, mais il n'y a pas d'autre solution. Et puis il faut aussi que nous percevions l'efficacité de notre changement de comportement. Si nos efforts ne servent à rien, évidemment, nous ne faisons rien. Or, pour motiver les gens à passer à l'action, il est essentiel de montrer que chaque action compte. Non seulement les actions du gouvernement, mais aussi l'engagement individuel du tri des déchets à l'usage de la voiture ou de l'avion, ce qu'on appelle la sobriété finalement. Et puis le troisième problème, c'est celui de ce que les économistes appellent le passager clandestin, c'est-à-dire la tentation de laisser les autres faire les efforts tout en sachant que nous bénéficierons de la réduction des émissions de carbone. Alors, pour ne pas adopter ce comportement égoïste, les gens doivent avoir suffisamment de preuves que les autres agissent dans le bon sens, ce qui crée un effet d'entraînement. Il faut donc mettre en valeur celles et ceux qui ont changé leurs pratiques pour offrir des modèles vertueux. Je pense par exemple à Chaka Ponk, qui milite pour un showbiz responsable, quitte carrément, disent-ils, à arrêter la scène.
Mais là, Soizic, vous nous parlez d'action individuelle, mais l'État là-dedans, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a également un rôle à jouer ?
Oh que si ! Et pour cela, deux éléments sont indispensables. Tout d'abord, la confiance dans les institutions. Des campagnes d'information doivent expliquer les actions entreprises par l'État, leurs coûts, mais également leurs avantages pour ne pas faire de l'écologie punitive. Comme par exemple, le lien entre un passage à 110 km/h sur les autoroutes et l'amélioration de la qualité de l'air et les bienfaits sur la santé. Mais attention, pour mener à bien ces politiques, l'équité doit rester primordiale, que ce soit dans le partage des ressources ou la diminution de la consommation qui doit d'abord être l'affaire des plus riches. Sinon, adieu la démocratie. Enfin, l'État doit être exemplaire. Il ne peut pas demander des efforts aux citoyens si lui-même ne montre pas les bonnes pratiques. Alors vous comprenez le problème quand nos ministres assument fièrement leurs déplacements en France en jet privé. C'est plutôt énervant et surtout contre-productif. Vous voyez, Margot, quand on mesure l'écart entre ce qui est fait et ce qui devrait l'être, ne nous étonnons pas que l'écologie ait totalement disparu des préoccupations des électeurs. Et ce n'est pas en se focalisant sur la dette publique ou des chômeurs trop payés qu'on va s'en sortir.
Et oui, merci beaucoup, Soizic. L'agité du local s'arrête ici. Merci à Laurette Audouy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Soizic et merci à toi, Léane. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur les ondes de l'autre radio pour la suite ? Allez, on regarde ça tout de suite ensemble. Votre soirée commence à 19h avec Novorama. Vous pourrez y découvrir les nouveautés indie, rock, pop, électro. Ensuite, à 20h, c'est The Voice of Cassandre. Et on termine la soirée avec D'Eclectic Jazz qu'on écoutera ensemble à partir de 21h. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'agité du local. D'ici d'ici-là, soyez indulgents envers vous-même et ceux qui vous entourent. Faites-le bien.